Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicants 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Laetitia Olivieri qui est présidente d'Apnée. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
C'est un plaisir de t'accueillir pour ce podcast. On va parler d'entrepreneuriat, de ta marque hein, qui s'appelle Apnée. Comment tu en es arrivée à ce projet entrepreneurial ?
Alors, moi, j'ai d'abord travaillé en tant que salariée pendant très longtemps dans des grands groupes, mais toujours avec, je pense, un esprit entrepreneur. Mmh. C'est-à-dire, je travaillais en tant que salariée comme si c'était ma boîte. Donc, je pense que j'avais ça en moi. Toujours eu envie de créer quelque chose sans jamais oser sauter le pas ou sans avoir l'idée. Et en fait, ce projet, il est arrivé un peu sur la route, je pense, au bon moment. Je crois beaucoup au hasard, aux heureux hasards de la vie
et aux karma, opportunités. Comme on dit.
Ouais, voilà, et aux opportunités qu'il faut savoir saisir. Et en fait, ce projet, il est arrivé à un moment de ma vie où je faisais du consulting. Mmh. Et donc, du coup, j'ai rencontré le mari de la fondatrice de ce projet. La marque, elle m'a tout de suite parlé parce que tout ce qu'ils ont créé, tout l'ADN, l'aspirationnel de la marque, moi, me touchait et en tout cas correspondait à ce que j'aimais. Donc, j'ai tout de suite été fan et enthousiasmée par la marque. Et en fait, je les ai d'abord accompagnés sur le plan de développement de la marque, puis de fil en aiguille. J'ai fini par racheter 90% des parts en plein Covid, la folle.
Bravo, c'est bien, mais, courageuse.
Mais pas de regrets, je m'éclate. C'est pas facile d'être entrepreneur, c'est sûr. Mais je pense que j'ai jamais autant vibré pour un projet et autant kiffé, même si le parcours est semé d'embûches, que tu es toujours sur le fil du rasoir. Mais c'est hyper intéressant de développer une marque.
Alors, tu les as pas cités, mais les boîtes où tu avais bossé, c'était quel secteur ?
Alors, moi, à la base, je viens du secteur des cosmétiques.
Cosmétiques,
voilà.
Okay.
Donc, j'ai travaillé...
Beauté, déjà, un petit
beauté,
peu.
Beauté, ouais. Okay. La beauté, avant tout. Donc, j'ai travaillé dans plein d'entreprises. J'ai travaillé chez Yves Rocher. Ensuite, j'ai travaillé chez Sephora, qui fait partie du groupe LVMH.
Ensuite,
j'ai passé 7 ans chez Chanel. Et ensuite, Estée Lauder, où je travaillais pour la marque MAC Cosmetics, qui est une marque de maquillage qui est bien développée en retail.
Toutes ces marques, j'imagine, t'ont appris le goût du détail, l'esthétique. Ils ont l'ADN d'une marque. Il y a eu de l'apprentissage là-dedans.
Clairement, le goût du détail. Alors ça, c'est sûr que le goût du détail et l'importance des petits détails, Chanel m'a tout appris, je pense. Après, le goût du retail chez MAC Cosmetics... clairement, je pense que je bénéficie aujourd'hui de toute l'expertise et de toute l'expérience que j'ai pu acquérir dans des grands groupes.
Tu étais au marketing, côté marketing
j'ai commencé,
ou côté sales
côté marketing et ensuite poste de direction générale.
Parfait. Et alors, donc, quand ils viennent te voir, ce couple d'apnée, ils avaient combien d'années, Apnée, à ce moment-là ?
Apnée, ça a été créé en 2017, donc ils avaient 2 ans. Ça faisait 2 ans qu'ils avaient lancé la marque.
Ouais. Ils cherchaient un nouveau souffle un petit peu, on pourrait dire.
Voilà, et après, je pense que c'est dans la vie d'une marque, c'est réfléchir à développer, à créer une marque et puis après la développer. Je pense qu'il y a des stades et des jalons. Mmh. Et ce n'est pas toujours facile de garder l'énergie, l'envie. Et je peux les comprendre parce que c'est un long chemin. Mmh. Donc, il y avait la fondatrice avait créé une autre marque à côté. Enfin, je vais passer tous les détails parce que ce serait trop long à raconter. Mais ils ont gardé des parts de la marque. On est toujours en contact. C'est leur bébé. Et moi, je me sens aussi investie de développer la marque à l'image de ce qu'ils avaient envie de faire de la marque. Parce que franchement, j'aurais pas pu faire mieux en créant cette marque. Tous les détails ont été bien pensés. Le positionnement de la marque est canon.
Bon, comment ils s'appellent les deux ? On va dire leur prénom quand même.
Sébastien et Marion.
Sébastien et Marion. Alors, on va parler d'apnée maintenant. Comment tu définis apnée et son marché, évidemment, sur les maillots notamment. Mais comment tu définis cette marque et sa singularité ?
Apnée, pour moi, c'est notre ambition, c'est vraiment de devenir la marque référente sur le beachwear premium éthique. C'est un positionnement assez unique parce que souvent, on oppose souvent, je trouve, durable, éco-responsable et désirable. Mmh. C'est-à-dire que souvent, les vêtements éco-responsables pour hommes notamment, c'est souvent du très basique, c'est pas souvent très beau. Mmh. Et quand c'est beau, souvent, c'est pas éco-responsable. Et les gens ont tendance, spontanément d'ailleurs, à opposer ces deux notions. Donc, chez Apnée, l'ambition, c'était d'abord avant tout de moderniser l'univers du maillot de bain masculin, mmh, en retravaillant les coupes, les imprimés. Là où il y a 5 ans, il y avait peu d'offres finalement, il y avait des marques de surf et puis après Villebrequin que tout le monde connaît, mais finalement il n'y avait pas tellement d'alternatives un peu plus modernes, on va dire. Donc l'ambition, c'était vraiment de moderniser l'univers du maillot de bain masculin.
Tu pensais déjà, avant de rencontrer tes acolytes, tu pensais déjà à cet univers du maillot ou pas encore quand tu étais dans
le groupe? Non, pas du tout. Moi, ça m'a toujours plu parce que je suis assez proche de la nature. Et en plus, on est dans un univers pas du tout bling bling. C'est vraiment les criques sauvages. C'est l'inspiration, c'est l'invitation au voyage, c'est les escales. Donc tout l'univers, moi, qui me plaisait. Mais non, j'y pensais pas du tout.
D'accord.
Je m'étais pas dit, je vais développer une marque de maillot de bain, pas du tout.
Donc tu as parlé beachwear, le côté éco-responsable et hommes et femmes, hein, la deux lignes.
Alors nous, on a commencé par l'homme. Oui. Et donc on est connu pour le maillot de bain, les shorts de bain. Homme.
D'ailleurs, j'en ai un devant les yeux, il est très élégant.
Est très beau.
Les auditeurs le verront, mais c'est très, très stylé. C'est très classe. Et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est la typo, la direction artistique. Je trouve que c'est très épuré, classe.
Je dirais au graphiste qui sera ravi.
Le nom est top aussi.
Tous les petits détails ont été assez bien pensés parce que le nom est très reconnaissable. Et c'est assez marrant parce que il est assez facile à prononcer, ce qui est important en fait. Et on est une marque d'ailleurs, je pense, avec un vrai potentiel international. On fait déjà 30% de notre chiffre à l'international.
Ah bien.
Aussi 30%. Parce que Apnée, c'est facilement mémorisable en fait. Okay. C'est un nom qui est assez simple.
C'est vrai qu'il sonne bien. Il est court et il est impactant.
Oui, il sonne bien. Donc, on a commencé avec des shorts de bain pour hommes. Mmh. Et on a lancé là récemment la collection femme. En fait, un peu sous la pression de mes amis qui me disaient « T'es gentille avec tes maillots pour hommes, mais quand est-ce que tu nous développes des maillots de bain pour femmes ?» Et moi, je m'interdisais un peu de le faire en me mettant des barrières, en me disant « Il y a tellement de marques de maillots de bain féminins. L'offre est déjà tellement pléthorique alors qu'il n'y a pas grand-chose sur l'homme. » Comment faire la différence, et puis finalement c'est vrai que ça fait assez sens de développer des maillots de bain pour femmes, et puis le marché est tellement plus gros que le marché des hommes que c'est intéressant de voir ce que ça donne.
Donc tu as une gamme maintenant pour
voilà,
le
maintenant
couple,
on a une collection
femme
qu'on a créée dans la lignée de nos valeurs, c'est-à-dire forcément éco-responsable. Nos maillots de bain sont alors pas 100% recyclés parce qu'on a de l'élastane pour le confort et qu'on peut pas recycler l'élastane, mais ils sont recyclés en polyamide recyclé à 75%. Et puis, on est dans l'esprit d'Apnée, des lignes épurées qui vont mettre en avant la silhouette, mais dans des maillots dans lesquels on peut bouger, avec des imprimés, bien entendu, qu'on peut jouer en mix and match, un univers assez coloré. Apnée, là, je t'ai ramené le best-seller qui s'appelle Écume, qui est bleu. Mais Apnée, c'est vraiment un univers de poésie et de couleurs, mais toujours des couleurs très raffinées. C'est-à-dire, c'est jamais des couleurs criardes, c'est toujours des couleurs qui vont bien aller au teint,
beaucoup
quel que
de bleu,
soit.
J'ai l'impression.
Alors, le bleu, c'est le best-seller. Les hommes achètent plus de bleu. Moi, ce n'est pas de ma faute. J'aimerais bien leur vendre d'autres couleurs. Non, on a plein d'autres couleurs. On a des couleurs très spécifiques apnées, comme le moutarde. On a des bleus pétrole, qui sont des couleurs qui reviennent régulièrement dans la gamme apnée. On a des mauves un peu aubergines. On a plein de jolies couleurs et toujours des couleurs un peu passées. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand je fais des salons hommes, tous mes amis sont kaki, bleu, gris, noir, et nous on ressort grâce aux couleurs et aux imprimés.
T'es une fan du grand bleu? Non, je pense forcément à Jean-Marie.
Les créateurs, les fondateurs de la marque étaient fans du grand bleu, et donc c'est
Mayol.
Un hommage bien entendu à Jacques Mayol, Enzo Mallorca, tout à fait.
C'est forcément un film qui a marqué beaucoup, moi en premier, qui m'a beaucoup touché, ce film. Par rapport à la, donc tu as parlé de la gamme homme qui s'est élargie, de cette ligne finalement assez premium. Tu es sur un positionnement qui est quand même assez premium.
Tout à fait.
Sans dire haut de gamme, plutôt premium.
On est premium.
C'est accessible aussi.
Voilà, c'est-à-dire nos maillots de bain hommes sont à 125 euros. un maillot de bain, une pièce femme, c'est 170 euros. Mmh. Donc, on est premium, c'est-à-dire qu'on va être deux fois moins cher, par exemple, qu'un Villebrequin ou un Orlé Barbrown, mais avec une qualité qui est hyper... enfin, tout à fait à la hauteur, une haute qualité. Mmh. Et on est référencé vraiment dans des très beaux endroits. On est chez Cheval Blanc, on est chez Six Senses, on est au Bristol à Paris.
Ah oui,
donc, on a plutôt un réseau wholesale sélectif. On est au Bon Marché, à la Samaritaine.
Donc, tu as combien de points de vente en grande distance? Enfin,
on n'en a pas beaucoup à date encore. On en a une quarantaine.
Quarantaine.
Après, l'objectif, ce n'est pas d'être distribué partout.
Tu parles pas mal des hôtels, donc c'est beaucoup des villes un peu marquantes, des Paris, tu parles le sud-ouest, exactement. Le sud
On a à la fois France. Des department stores, des gros department stores, comme la Rinascente, le Bon Marché, la Samaritaine, les Galeries Lafayette. Et puis après, on marche très bien dans les hôtels parce que c'est un achat un peu contextuel. C'est-à-dire que tu es en vacances.
Souvent, on l'oublie d'ailleurs.
Voilà. Alors, il y a tous ceux qui. On vend des maillots à tous ceux qui oublient leur maillot. Et puis aussi à ceux qui sont de bonne humeur en vacances. Et c'est là que tu as envie de t'acheter un maillot quand tu es un peu bronzé. Et tu n'as pas forcément envie de t'acheter un maillot quand tu es à Paris tout blanc.
C'est quoi le taux? Tu devrais connaître ces stats. Parce que souvent, un maillot, est-ce qu'on le garde d'année en année? C'est quoi le taux de rachat de maillot en fait?
Alors, c'était un vrai point de surprise
Renewal,
pour moi.
Renewal, comme on dirait.
C'était un vrai point de surprise pour moi parce que moi, j'étais convaincue que les mecs gardaient genre le même maillot 5 ans d'affilée sans en changer. Non. Et en fait, pas du tout. Alors, ça est-ce bouge. Qu'il y a le fait aussi qu'on lance des nouveaux imprimés chaque année? Mais nous, on a un taux de rachat qui est assez important. On a à peu près 10% de notre clientèle qui rachète chaque année des nouveaux maillots.
Tu as des effets
maillots.
Fidélité aussi? Si tu commences à acheter pas mal d'articles, tu peux avoir des réductions?
Alors,
et tout ça.
Non, on ne fait pas de points de fidélité, mais on a développé aussi la ligne beachwear. Donc maintenant, on a des chemises en lin, on a des t-shirts, on a des super beaux pantalons.
Ah, donc tu élargis pas mal la gamme.
On a élargi la gamme, un petit peu.
Ok. Donc ça, tu as parlé des enjeux points de vente. Alors, sans faire tout le business case, mais ce que j'aime bien toujours pour les auditeurs, donc c'est un cut de royalties. Après, n'importe quel point de vente va te prendre une com, un 20, 30%. On va pas dire qui, comme ça, tu n'es pas obligé de dévoiler.
Alors, ça dépend vraiment des deals que tu as avec les wholesalers. Tu peux avoir des deals où ils t'achètent en ferme.
Oui, ils
te prennent une commande, ils t'achètent ta commande en ferme.
Et ils margent sur le prix derrière.
Voilà, exactement. Mmh. Et après, il y a des deals où, par exemple, notamment souvent avec les hôtels, où ils te font du dépôt-vente, c'est-à-dire que tu leur mets en dépôt des produits et ils te payent tes produits en fonction de ce qu'ils ont vendu.
Donc ça, c'est pas mal quand ils t'achètent déjà le stock en amont.
Alors en fait, il faut un bon équilibre entre les deux. C'est pas mal d'avoir des achats fermes parce que ça permet d'assurer la trésorerie. Après, tu marges moins bien. Et après, dans les hôtels, c'est pas mal parce que alors, tu prends plus de risques parce que tu dois avancer du stock et avancer du coup une production. Mais en revanche, tu marges plus.
Intéressant.
Donc en fait, tout est model. D'ailleurs...
Il faut un mix des deux, toi, tu dis.
Oui, et vraiment, tu vois, je trouve que quand on... Moi, j'ai racheté en plein Covid, donc je me suis tapé Covid, gilet jaune, on s'est tapé quand même tout le contexte économique hyper compliqué.
Et puis, quand tu as acheté, c'était avant le Covid. T'étais juste avant
c'était,
ou pendant
quand
même.
On a finalisé le deal, c'était plein Covid.
Ah ouais, en même temps, pendant le Covid, d'accord. Et donc ça a beaucoup impacté. Il y a la console,
ça a impacté du coup ce qu'on appelle le brick and mortar, c'est-à-dire les magasins, les points de vente physiques. En revanche, sur l'e-com, on a fait des très bons résultats. Mais en fait, moi, je trouve que le constat que je me fais, c'est que finalement, dans le contexte actuel, qui est quand même un contexte qui n'est pas simple et qui finalement, je me demande s'il redeviendra simple un jour, simple et prévisible un jour. Je pense que la clé du succès, c'est quand même de rester agile et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc finalement, moi, quand j'ai racheté la marque, on s'était dit on va accélérer à fond l'e-commerce. Et puis finalement, le wholesale, ce qu'on appelle le wholesale, les boutiques vont venir nourrir, nous aider à développer la notoriété. Mais c'est pas un réseau sur lequel on va mettre forcément beaucoup d'efforts. Et puis finalement, on se rend compte qu'on a fait une super année e-commerce, mais qu'après, c'est dur parce que les coûts d'acquisition, c'est-à-dire l'argent, le budget que tu dois mettre pour driver tes clients sur ton site, il augmente de plus en plus. Donc au final, la clé du succès, je pense, c'est d'avoir un mix de distribution entre l'e-shop, les boutiques qui vont te permettre de développer aussi ta notoriété dans des villes, dans des endroits, d'aller toucher des clients que tu ne toucherais pas toi avec ton site e-shop. Puis les boutiques en physique aussi, on teste des boutiques éphémères, on va en ouvrir une là aux Abbesses en mai, juin, là, à partir de début mai. Et parce que tu as des gens qui ont besoin de toucher les produits, de les essayer, qui n'aiment pas acheter.
Je pense à des festivals aussi, ça peut être dans des showrooms.
Oui, on va travailler. Ça peut se développer, ça. Ouais, on a travaillé avec le festival des herbiers. Mmh. On avait travaillé aussi avec Calbee and the Rocks au tout début.
Bien.
Ouais.
Donc des beaux partenariats que tu vas mettre en place. Oui. Et donc aujourd'hui, dans ton mix de vente, c'est à peu près moite-moite, tu dirais, entre l'e-commerce
c'est
et l'aventure.
Près, voilà, c'est à peu près ça.
Donc c'est bien, tu es assez sain et assez bien réparti. En termes d'âge, on est quoi? C'est du 30-50, tu dirais 30, c'est quoi en
typologie?
C'est
du, je dirais, 25-45.
25-45, ouais, ah, 25-45. Ok. Ouais. Okay. Comment tu vois l'essor du... Alors là, je ne vais plus sur l'Entertainment Lab, qui est un peu notre thème du storytelling, des formats, du brand content. Est-ce que comment tu vois le terme un peu DNVB, Digital Vertical Brand Native? Est-ce que tu aimerais avoir un côté comme ça, avec l'influence digitale un peu poussée?
On l'est de nature. T'es déjà assez active là-dessus. Voilà, on l'est de nature, puisque la marque, elle s'est créée comme ça. C'est-à-dire qu'au départ, on vendait nos produits que sur notre e-shop et on a une part... d'e-commerce qui est très importante. Moi, quand je travaillais dans les marques de luxe comme MAC Cosmetics ou Chanel, l'e-commerce, c'est 10%. Mmh. Et c'est déjà bien, tu vois. Donc, nous, on est vraiment une DNVB. Je pense que, voilà, encore une fois, je pense que les purs DNVB, aujourd'hui, souffrent un peu et que la clé du succès, c'est finalement d'avoir un mix.
Comme tu as fait.
Voilà, en termes de distribution. De pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais nous on est clairement une DNVB puisque on est hyper actifs sur les réseaux sociaux.
T'as quelle communauté aujourd'hui en réseau?
On a 20 000 followers,
ah, bien,
mais avec Instagram. un engagement qui est plutôt assez élevé, parce qu'en soi c'est pas tant le nombre de followers qui compte que d'avoir une communauté engagée. Donc,
mais ça, t'as mis le paquet là-dessus, alors t'as quand même pas mal boosté.
On n'a pas mis le paquet, je pense que c'est assez...
naturel.
Oui, je pense que c'est assez naturel. Et moi, je suis plutôt dans l'esprit et je pense que c'est la clé de la longévité aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai envie qu'on parle encore d'apnée dans 10 ans. Tu vois, j'ai pas envie de faire un buzz one shot et de mettre le paquet, comme tu dis, et puis de grossir très vite et derrière de disparaître 5
T'es
ans
là
plus
pour
tard.
Construire
donc,
sur la longueur.
On est plutôt dans un esprit de construire la marque, d'être vrai, d'engager notre communauté, mais parce qu'on est vrai, on interagit vraiment avec eux. D'ailleurs, c'est sympa quand on ouvre des boutiques éphémères, de pouvoir discuter avec les clients qui viennent te voir et qui t'achètent d'habitude sur l'e-shop, et de discuter avec eux en live, d'avoir leur retour. Et moi, je crois plutôt à ça. On est plutôt parti pour développer la marque, même si ça prend un peu de temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, les marques qui restent, c'est celles qui ont pris le temps de se développer. Parce qu'en fait, quand
ça,
tu veux aller trop vite...
Ça, tu l'as pris dans ta première vie, en plus.
Bien sûr,
t'as
voilà.
T'as vu des marques qui ont pris leur
quand
temps.
Quand tu veux aller trop vite, parfois, tu fais des erreurs. C'est-à-dire que je pense que notamment quand on est sur un positionnement premium, ce qui est important, c'est d'être raccord par rapport à tes valeurs et à ton ADN. Et en fait, si tu veux aller très vite et développer très vite le chiffre, forcément, tu es obligé de faire des compromis par rapport à ton ADN.
C'est vrai.
Et, c'est là que ça finit par se retourner contre toi plus tard.
Bon, c'est là où on voit aussi toute ton expérience et que ton projet est mûri.
Tu vois, nous, on a refusé, par exemple, on a été contacté par Amazon et Zalando. C'est sûr que quand Zalando vient te voir, tu te dis ah ouais, quand même c'est gros, la visibilité que ça va me donner, c'est incroyable.
Mais t'enlèves,
ils viennent
un côté
nous voir
premium.
Parce qu'en fait ils ont besoin de se racheter une légitimité sur le côté éco-responsable. Ils veulent créer un segment éco-responsable et je trouve ça bien, tant mieux s'ils se sentent maintenant un peu plus concernés par ces sujets, mais j'ai refusé.
D'accord.
Alors j'aurais fait du chiffre.
Tu n'as pas
cédé
aux sirènes pour apnée.
Non, peut-être que j'aurais fait plus de chiffres, tu vois.
Mais tu l'as fait pour protéger
une meilleure,
ta marque,
une meilleure
et ta,
année, mais
et ta
ça faisait
cohérence.
Pas sens. Voilà, d'accord. Ça faisait pas sens. Donc je pense que c'est important. Et je pense que tu peux pas. C'est difficile quand même de développer vite une marque en restant cohérent avec tes valeurs. Je pense que c'est bien parfois de prendre un peu plus le temps.
Non, très intéressant ce que tu dis. Alors,
pareil sur la distribution, tu vois, clairement, on a envie de rester sélectif dans la distribution. Pour nous, c'est important d'avoir les beaux partenaires qu'on a aujourd'hui. Si je suis aujourd'hui, je suis au Bristol, chez Cheval Blanc, chez Six & Six, si je commence à être partout, ils auront plus envie que je sois chez eux. Donc, faut être lisible, voilà. Donc je pense qu'il faut choisir un peu son camp aussi. Bon, tu peux pas, c'est jamais bon d'être au milieu en fait.
En tout cas, on sent un positionnement qui est vraiment bien affirmé dans ta boîte. Le côté entrepreneurial, donc j'imagine que c'est un business où il y a de l'enjeu de trésor, de flux tendu. Ah, c'est ça le sujet, c'est ah, que bah, il te faut tes commandes parce qu'en fait, quand tu as les commandes, comment ça se passe là? Il faut que toi tu produis où d'ailleurs, on en a pas trop parlé.
Mais on produit au Portugal. On dessine en France, on design en France et on produit au Portugal.
Quel coin? Cascais?
Au nord de Porto.
Ah voilà,
ouais,
okay,
au nord de Porto.
D'accord.
C'est tout l'enjeu, la trésorerie, et ça, tu découvres ça. Tu vois, moi, j'avais travaillé dans plein de grosses multinationales avec des postes à responsabilité, mais bon, c'est jamais toi qui a les cordons de la bourse et c'est pas toi qui dois aller négocier ton autorisation de découvert chez le banquier. Et c'est clair que quand tu deviens entrepreneur, tu comprends que le nerf de la guerre, c'est la trésorerie.
C'est le cash.
Et c'est la trésorerie dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire que si tu fais des prévisions et que tu fais moins bien que tes prévisions, tu te retrouves avec du stock immobilisé et tu manques de cash. Mais si tu grossis trop vite et que tu n'as pas anticipé, tu peux très bien mettre la clé sous la porte, même si tu as plus de 200% de commandes, parce que tu n'es pas capable d'avoir le cash pour produire et livrer. Tu vois. Donc, en fait, la gestion de la trésorerie, c'est clé dans un sens comme dans l'autre. En fait. C'est-à-dire gérer la croissance, c'est hyper important. Et il y a des entreprises qui mettent la clé sous la porte alors qu'ils font des ventes parce qu'ils ont accéléré trop vite et qu'ils n'ont pas réussi à bien planifier la trésor.
Particulièrement dans ton business, où il y a cet aspect de production immobilisée,
voilà. Exactement.
Et de vente ensuite.
Oui, nous, on ne vend pas du service, donc on ne peut pas s'adapter facilement. On doit quand même si, tu vois, on ne produit pas en Chine, donc on n'a pas ces délais de production très longs. On produit en Europe, donc juste à côté. Mais bon, malgré tout, moi, ma production de maillots, je dois la prévoir 4 mois en avance.
4 mois en avance. Parce que c'est à des cycles, c'est sur les cycles des collections, toi, c'est toujours printemps, été, automne.
Oui, en général, là, par exemple, on va présenter au wholesaler notre collection 2024. D'accord. Au mois de mai, début mai, on va commencer à présenter au wholesaler notre production 2024. Et du coup, on leur demande, moi, je vais devoir appuyer sur le bouton, dire à mon usine, début novembre, leur donner des quantités.
T'as donc combien après, de temps fort par an? Combien de fois tu changes de collection par an?
Nous, on fait 2 grosses collections par an. Parce qu'on a aussi, des pièces automne-hiver.
Tu dois toujours renouveler. C'est ça qui est difficile dans la mode.
Ah tu peux jamais t'arrêter. Tu dois renouveler. Et en même temps, ce qui est difficile, c'est que parfois, tu n'as pas la boule de cristal. Donc, parfois, tu développes des produits que tu trouves canon et puis ça accroche pas trop. Ou alors, ça met du temps à accrocher. Tu vois, quand on a lancé... par exemple, aujourd'hui, le beachwear marche très bien. Les chemises en lin, elles cartonnent. Alors, les chemises en lin, elles ont marché assez vite. J'avais lancé des t-shirts aussi qui ont mis du temps à décoller parce que je pense qu'il y avait plus de valeur ajoutée perçue sur les chemises en lin que sur les t-shirts. Les t-shirts, ils marchent très bien sur les boutiques de plage, mais sur le site, ils n'avaient pas très bien marché. Alors que pour moi, c'était l'achat complémentaire évident. Et on a développé des pantalons en lin. La première année, ça n'a pas tellement accroché. Et puis là, maintenant, ça cartonne. J'ai développé une chemisette manche courte imprimée. Moi, je pensais que ça allait cartonner. Et puis finalement, on en a vendu moins que ce qu'on avait imaginé.
Tu ne peux pas tester un petit peu? Tu ne fais pas des petits focus
groupes?
Si, on teste,
mais c'est difficile. Ça
a ses limites.
Ouais, ça a ses limites. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours facile de prévoir. Et donc, quand tu es une... Moi, je trouve que par rapport aux valeurs éco-responsables, et quand tu es une jeune marque, l'idée, c'est aussi d'y aller pas à pas, de faire attention aussi, de faire des petites productions pour ne pas te retrouver avec un surstock de malades, de tester les produits, voir si ça accroche, et puis après, développer plus de couleurs. Donc, il faut réussir à toujours animer ton offre, mais tout en limitant les risques que tu prends.
Quand tu disais aussi, je reviens sur ton histoire de gestion de trésorerie, quand tu as les commandes qui arrivent, il y a des délais, c'est ça qui est difficile, le délai de paiement entre le moment où tu dois, toi...
Les conditions de paiement.
Toi, ton moment où tu mobilises et moment où tu as tes conditions de paiement, c'est pas tout de suite, quoi. C'est ça la difficulté.
C'est toute la difficulté, je dis souvent en rigolant, il vaut mieux négocier ses conditions de paiement que sa marge au final. Il vaut mieux, si tu peux négocier les deux, bien sûr, c'est le choix du roi. Hein, mais entre à choisir, il vaut mieux négocier ses conditions de paiement que
ça
marche.
C'est vrai dans plein de business en ce moment. Les retards de paiement, c'est un truc compliqué.
Bien sûr.
Et, non, mais en tout cas, c'est courageux parce que c'est vrai que tu te lances dans une industrie où on se dit... il faut les reins très solides et j'imagine donc c'est pour ça que tu passes par cette nouvelle levée de fonds, donc ça va faire un appel si vous êtes investisseur,
rejoignez-nous
et que vous aimez bien Apnée, rejoignez bien sûr Laetitia. Et donc là tu aimerais renforcer un peu les fonds propres et avoir un peu plus de moyens.
C'est difficile Et puis là, on se dit aussi qu'il faut pas, ce qui est important, c'est aussi de pas rater les momentum. Et là, je pense que la marque, elle est. Je sens qu'il y a un stade de maturité, tu vois, qui a été atteint. On a bien. Je pense que maintenant, on est assez au clair sur le business model qu'on doit développer. On a aussi validé les produits, tu vois. On a des super avis sur les produits, sur la qualité des produits. Donc, on a validé les produits,
la qualité,
le modèle de distribution. Et là, l'objectif, c'est lancer, la notoriété, quoi. En fait. Moi, aujourd'hui, pour développer Apné, il faut qu'on se fasse connaître. Et en général, les gens qui découvrent la marque deviennent des clients fidèles. C'est rare que je fidélise pas les clients. Et nous, on a un service, on a vraiment une approche aussi très premium du service client. C'est-à-dire que moi, si un client me renvoie un maillot avec un fil qui dépasse, j'ai très envie de lui dire, tu prends ta petite paire de ciseaux et tu coupes le fil, mais je lui change son maillot. Donc, on a vraiment une approche très luxe. Tu vois, si un client ou une cliente a le moindre problème, on ne discute pas, on lui change le produit et on assume que, au final, oui, peut-être qu'il y en a qui en abusent, mais qu'au final, c'est mieux pour...
Tu veux ce bon service client, cette bonne satisfaction.
Oui, je trouve que c'est hyper important d'avoir un service client fluide, d'envoyer rapidement tes produits dans des packaging qui sont qualitatifs et éco-responsables, parce que ça aussi, c'est important. Et puis, d'être hyper à l'écoute du client et au service du client, je pense que c'est super important. Notamment quand tu travailles en e-commerce, où il y a quand même beaucoup de gens, quand tu n'es pas connu, qui ont beaucoup de freins par rapport à l'achat, de ne pas savoir s'ils vont recevoir. Moi, le nombre d'amis qui me disent « Ah bah super, j'ai commandé sur tel site et puis j'ai jamais reçu mon colis s'est perdu, on m'a jamais répondu. » Quand tu veux développer une marque de e-commerce, c'est hyper important d'être hyper
organisé
carré,
là-dessus. Et dans ton équipe, donc combien de personnes, Laetitia, aujourd'hui ?
On est une toute petite équipe, on est une équipe de 4 personnes. Après, j'ai pas mal de gens qui travaillent en freelance et qui sont vraiment avec nous depuis longtemps, donc qui font partie pour moi de la team.
Dans les 4, t'as quoi ? Donc t'as l'approvisionnement, t'as le sales, le marketing, comment t'as organisé ?
On n'est même pas... t'as un peu toutes les casquettes, hein, tu vois, moi je fais un peu toutes les casquettes. Après, on est déjà bien organisé sur la supply chain, dans le sens où on a un entrepôt logistique avec qui on travaille depuis le départ. Il y a plein de marques, de jeunes marques qui shippent de leur bureau. Nous, on a un entrepôt logistique, on a une agence... digital, qui travaille sur toute la partie acquisition. On a une agence qui travaille sur toute la partie parcours UX, toute l'expérience que tu vas avoir sur le site. J'ai un graphiste, une print designer. Donc, on a tout un écosystème. Voilà.
Oui, ah bah, très intéressant. Ouais. Et tu en as parlé en deux mots. L'e-commerce, c'est quand même c'est du gros budget. À t'écouter, il y a quand même de faire tourner le site, l'acquisition, le digital market. Ça, de toi à
bien
moi,
sûr.
Tu peux le développer en agile ou en vrai, il faut quand même pas mal de moyens. Toi,
bien
tu
sûr.
Trouves.
Bien
c'est
sûr,
beaucoup, c'est plus de moyens même que le physique. Tu laissais entendre, j'ai l'impression.
En fait, si tu fais ton calcul, ça revient au même, j'ai envie de dire. Tu fais ton calcul, c'est-à-dire que ton taux de marge brute, il va être bien sûr bien plus élevé en e-commerce que sur le wholesale. Mais si tu fais le calcul de ce que tu dois investir pour faire une vente et pour shipper tes produits, au final, ça revient pratiquement au même.
Parce que ce que
et
je
puis
souvent,
ça a explosé surtout, c'est que moi, quand j'ai racheté 90% des parts de la marque, le coût d'acquisition, il était à 23 euros. Mmh. Aujourd'hui, il a 45. T'imagines, il a doublé.
Ah oui, l'inflation a aussi touché le digital marketing.
Bah ouais.
Parce que, ça, je voulais avoir ton avis là-dessus. Parce que on m'avait parlé de cette stat que quand tu rentres dans un magasin, je crois que tu as un taux pour acheter qui est... une proba d'acheter qui est très forte, genre 30 à 50%. Je crois que c'était l'agence 55 qui m'a dit ça. C'est les gens qui venaient de chez Google. Et quand, par contre, tu es en e-commerce, tu as 5% de chance quand quelqu'un va sur un site.
Oui, dans ton taux de conversion, ton taux de
transformation. Ça, tu l'as constaté qu'en vrai, le taux de transfo, il est compliqué entre l'audience que tu génères et les gens qui achètent directement.
Oui, bien sûr.
Comment t'expliques ?
Après, c'est... Après, je sais pas, 50%, ça me paraît quand même élevé comme taux de transformation parce que...
30 à 50 en magasin, j'imagine que oui. En tout cas, le taux en physique, quand tu rentres dans un magasin, est beaucoup plus fort que quand tu rentres dans une boutique e-commerce.
Oui, déjà, tu as quelqu'un qui est là pour te faire le storytelling, pour te vendre les produits, tu vois.
Il est plus engageant toujours.
Oui, et puis en fait, la difficulté, c'est aujourd'hui, c'est que tout est fait. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut vraiment... quand je disais qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, ça concerne tous les secteurs d'activité, y compris le marketing et la communication. C'est-à-dire, si tu comptes que sur le paid media,
il faut diversifier.
En fait, tu es mort. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait, l'algorithme est fait pour que tu puisses, t'es de plus en plus de, tu dois dépenser de plus en plus d'argent pour driver ton audience. C'est de plus en plus difficile de driver une audience qualifiée. Parce qu'en fait, c'est bien beau d'envoyer des gens sur ton site, mais si j'envoie 100 personnes, mais que sur ces 100 personnes, au final, j'en ai que 20 qui correspondent vraiment à ma cible, à mes vrais acheteurs. Bon, bah, t'as bien compris qu'il y avait 80% de déchets, donc t'as payé pour 80% de déchets.
C'est
tu vois
ça qui est difficile, c'est donc cette qualification. Fait,
bah, voilà, c'est pour ça que ce qui est hyper important, et d'où l'effet aussi de se dire, est-ce que l'important c'est de faire... mais après, tu dois choisir ton combat et ton business model dès le départ. C'est-à-dire, tu peux choisir de te dire, bah, moi, ce que je veux faire, c'est des produits pas chers, et je vais aller cibler une audience hyper large, et je vais mettre le paquet, je fais grossir ma boîte, je revends, et puis je pars avec l'argent et j'oublie. Ou est-ce que tu fais plus une marque premium, où là, tu vas peut-être avoir plus de difficultés à convertir parce que les produits sont plus chers. Donc, il y a forcément beaucoup plus d'attentes derrière ces produits, mais où tout l'enjeu est de driver une clientèle plus qualifiée.
Non, très intéressant tout ce que tu racontes. On arrive dans la dernière partie du podcast. Alors, je voulais avoir ton regard sur tout ce qui est brand content, parce que c'est ce qu'on développe beaucoup chez Newton Studio. Tout ce qui peut être web-série, film. Il y a un exemple de marque qui me vient en tête, je crois que c'était Guy Cotten qui est dans ton domaine. Hein. Il est dans les cirés. Il avait créé tout un site interactif où tu te retrouvais comme si tu étais dans la mer avec le ciré et tout ça. Tu crois à ces nouvelles narrations, toi aussi, dans ton univers, il y a eu des précédents.
Je pense que c'est hyper important, le brand content, c'est ultra important. Et tu vois, moi, je me questionne, je me remets souvent en question, parce que moi, je viens de l'univers du luxe. Oui. Donc, t'imagines que le storytelling, c'est moi, c'est ce qui me parle. Et, et quand tu es dans l'univers du luxe, c'est la raison d'être. Si tu n'as pas de storytelling, tu ne peux pas vendre un produit cher. Et c'est vrai que je me suis souvent remise en question, notamment sur la façon dont on travaillait les shootings, la façon dont on travaillait nos vidéos. Tu vois, là, cette année, on a vraiment travaillé avec un vidéaste, mais on a écrit un scénario. Il y a peu de marques qui vont faire ce que fait Apnée, tu vois, avec un vrai script en amont. Il y a très peu de marques qui vont faire ça. Et souvent, je me questionne, je me dis, bon, OK, est-ce que tu ne te fais pas un peu plaisir? C'est les choses auxquelles tu crois et finalement, tu mets beaucoup de budget là-dessus. Au final, tu ferais ton petit shooting à Marseille en 2-2. Est-ce que tu ne vendrais pas autant de maillots? Mais finalement, j'ai l'impression quand même que le temps me donne raison, parce que pourquoi la Samaritaine vient chercher Apnée? C'est parce qu'ils trouvent que le feed est beau et que le contenu est beau.
Ils ont vu ce film.
Tu vois, et finalement, ça me permet, je pense que développer du contenu qui est cohérent par rapport à ton positionnement, c'est toujours, tu ne vois pas forcément tout de suite le retour sur investissement immédiat, mais tu l'as, ton retour sur investissement sur le long terme. Parce que bah, tu vas aller, tu vois, je suis chez Cheval Blanc, c'est eux qui sont venus nous chercher parce qu'ils trouvaient que la marque était belle. Si on ne développait pas tout ce contenu hyper beau, qui fait du sens, avec un vrai storytelling, qui est un storytelling vrai, tu vois, ça correspond aux valeurs de la marque. On est vraiment dans un discours qui est un discours de vérité, de transparence vis-à-vis de nos consommateurs. Bah, si on ne développait pas tout ça, si on ne faisait pas rêver les gens, cette marque, elle aurait bien moins de sens.
D'assets, ouais, c'est sûr.
Donc moi, j'y crois à fond, c'est hyper important.
Et dans les styles d'histoire auxquels tu crois beaucoup, en ce moment, est-ce que c'est des choses plus sérielles, un peu plus web-série? Est-ce que c'est des contenus aussi? Ça peut être Instagram, TikTok. Sur quel format tu crois aujourd'hui dans l'avenir?
Alors maintenant, c'est difficile de passer à côté des formats vidéo. Tu vois, moi, quand je fais un shooting, avant, tu mettais 2/3 sur le photographe et 1/3 sur le vidéaste. Maintenant, tu mets moite-moite et je pense que demain, tu mettras 2/3 sur le vidéaste, 1/3 sur le photographe, tu vois.
Ça
a vraiment évolué, les contenus vidéo, bah, par rapport aux algorithmes d'Instagram, parce que les gens sont nourrie à ça. Moi, ma fille, elle a 12 ans, elle a désinstallé TikTok, je suis assez contente. Mais sinon, elle est devant des vidéos longueur de journée. Donc vider les contenus vidéo, hyper important. Et moi, je trouve ça hyper sympa. Moi, c'est aussi pour ça qu'on fait une levée de fonds, pour justement développer plus de contenus qui vont engager. Donc les web-séries, je trouve ça génial. Les podcasts, je trouve ça canon. Tous ces formats qui vont venir engager, tu vois. Après, je pense que ce qui est important quand tu développes des contenus, c'est que ça reste cohérent par rapport au positionnement de ta marque. C'est-à-dire qu'un contenu, je pense qu'il ne faut pas essayer d'aller copier-coller, tu vois, les contenus développés par une autre marque. Il faut que ce soit adapté au positionnement de ta marque. Et après, je pense qu'il faut rester aussi parfois dans la simplicité. C'est-à-dire que quand ça devient trop compliqué ou trop tiré par les cheveux, je pense que ça perd en efficacité. Donc parfois, les choses les plus simples... En fait, je pense qu'il faut que les choses fassent du sens. Tu vois, faut pas développer du contenu pour développer du contenu qui fait pas de sens ou qui est pas cohérent vis-à-vis de ta marque. Faut que les choses fassent du sens. Quand ça fait du sens, c'est limpide et c'est comme ça que tu engages les gens, en fait, et ton audience.
Sur le mouvement des ambassadeurs et des influenceurs, tu en as parlé tout à l'heure, tu y crois ou tu dis un peu, bah oui, mais il faut vraiment que ça soit qualifié en termes d'audience. Comment tu vois ce mouvement? Parce que là,
c'est incontournable, c'est sûr. Toi, c'est après,
mais ça t'aide à vendre ou c'est plus un effet d'image de toi, moi?
Alors, dans les cosmétiques, tu vois, c'est incroyable parce que les cosmétiques, tu vois vraiment le pic de vente. La nana, elle se met la crème à côté de l'oreille. T'as le pic de vente. Bon, nous, dans le prêt-à-porter, c'est quand même plus difficile. Et notamment sur le prêt-à-porter homme, là, on démarre avec la femme. Donc, je vais voir là cette saison. Sur les hommes, c'est plus difficile à mesurer. Après, nous, ce qui est génial, c'est qu'on a la chance de travailler avec des influenceurs qui aiment vraiment la marque. Et moi, ce que j'adore, c'est quand je vois un gros influenceur qui porte mes maillots sans me taguer, bah, au final, ça me fait super plaisir. Je me dis, le mec, je lui ai offert un maillot et il le porte encore. Et ça lui fait plaisir de le porter.
Ah bah, ça, c'est royal. Quand
tu vois, c'est génial. Et moi, je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire, il y a ce qui est visible. Mm. Et puis, il y a aussi tout le bouche à oreille.
Naturel de l'amour des gens pour ce que tu fais.
Exactement.
Ça,
et moi, je crois plus à ça, tu vois, au final.
Oui. Très intéressant.
C'est-à-dire que sinon... tu vois, aller payer... en fait, le problème, c'est que quand tu commences à payer des grosses sommes, alors soit il faut être une marque de luxe et vraiment d'ultra-luxe.
Et d'attribution, et les gens le sentent.
Moi, je préfère que les gens... Donc, nous, on est plutôt dans une stratégie de sélectionner des gens qui aiment la marque, qui partagent aussi les valeurs d'apnée. C'est-à-dire que je préfère travailler forcément avec des gens qui sont quand même un peu sensibles au respect de la planète et des océans. Tu vois, ça fait plus sens. Et puis voilà, travailler avec des gens qui aiment la marque et qui kiffent les produits. Et nous, par exemple, on travaille en direct avec eux, c'est-à-dire qu'on aime bien avoir ce contact parce qu'on est encore petit, donc c'est les avantages aussi. Je te dis pas que si on se reparle dans 10 ans ça sera encore organisé comme ça, mais pour l'instant, moi, ce que j'aime, c'est vraiment ce contact en direct avec les influenceurs, avec les gens, quoi.
Deux mots sur l'éco-responsabilité de la marque. C'est vrai que, on le sait, l'industrie du vêtement, elle est quand même pas mal touchée parce que souvent, les gens s'approvisionnent très loin. Y a moins...
C'est l'industrie la plus polluante.
Oui, c'est très polluant. Donc, toi, tu as pris vraiment un parti pris d'éco-responsabilité. Qu'est-ce que tu dirais sur ce sujet spécifique lié à l'industrie de la mode?
Ça a toujours été... Alors, chez Apnée, ça a toujours été intégré de manière naturelle. C'est-à-dire que c'est pas... On n'en use pas comme d'un argument marketing. C'était une évidence pour les filles, quand elles ont créé cette marque, de se dire... on ne va pas créer une marque qui ne respecte pas les océans et qui ne respecte pas l'environnement. Donc, ça, nous, c'est notre grille de lecture. On ne lance pas, on fait super attention à l'origine des matières premières. Bien entendu, on produit en Europe, mais tu vois, on pourrait en produire en Europe avec des tissus qui viennent de Chine, ça ne fait pas tellement sens, tu vois. Donc, en fait, il faut faire très attention aussi parce que tu as
parfois...
Portugal,
c'est que c'était... Bon, forcément, je te pose la question, c'est que c'était un petit peu moins onéreux que France, j'imagine.
Alors,
pour partie.
Ils ont un vrai savoir-faire sur la production de maillots de bain, comme la Tunisie, d'ailleurs. D'ailleurs, tu fais Paris-Tunis ou Paris-Lisbonne, c'est le même nombre de kilomètres. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de faire tes produits au plus proche, mais là où il y a le savoir-faire.
D'accord.
C'est-à-dire que, par exemple, si je faisais des sequins, peut-être que j'irais produire à Madagascar ou en Inde, ça ferait sens parce qu'ils ont le savoir-faire. Mm-hmm. Tu vois, quand tu produis des vêtements techniques, il y a très peu de savoir-faire de vêtements thermocollés, ultra-techniques en France et en Europe à date. Ça va venir, j'espère. Mais c'est souvent produit en Chine parce que le savoir-faire n'est pas encore assez développé en France et en Europe. Je pense que la question, c'est toujours de se dire où est-ce que je peux produire au plus près, dans la meilleure usine qui a le meilleur savoir-faire pour ces produits. Par exemple, le Portugal, c'est très bien pour les maillots de bain, pour les pièces en jersey de coton. Mais pour les pièces à manches, la Lituanie est bien mieux positionnée. Donc, tu vois, dans l'esprit du commun des mortels, tu pourrais te dire « Ah, la Lituanie, c'est bas de gamme, c'est parce que c'est moins cher. » Non, ils ont un vrai savoir-faire sur les pièces à manches, par exemple, que n'a pas le Portugal.
Donc, revient, comme tu dis, au savoir-faire et à la qualité des personnes dans la conception.
Voilà, je pense que c'est ça qui est important. Et puis après, de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup aussi d'hypocrisie. Un tissu peut venir de Chine, être imprimé en France, ce sera marqué « Made in France ». Donc, il faut faire attention aussi à ça. Donc, nous, on essaie aussi d'être très transparent sur l'origine des tissus et de faire super attention. Tu vois, par exemple, nos chemises en lin, c'est un lin qui est cultivé et tissé en Belgique et elles sont fabriquées au Portugal. Donc, on fait super attention à l'origine des matières premières. On a revu toutes nos étiquettes et ce qu'on appelle les petites étiquettes en carton qui sont accrochées aux produits. Ça, c'est du carton, c'est du papier recyclé. Ça, c'est du polyester recyclé. Elles sont produites en France et en Italie. On a revu nos packaging d'envoi aussi, parce que quand j'ai rejoint la marque, ben, c'est vrai que là, on travaillait avec une usine, enfin, avec un prestataire français, mais qui faisait ses boîtes d'envoi en Chine. Donc, c'est un peu, ça ne faisait pas tellement sens. Donc là, toutes nos enveloppes sont en papier recyclé, fabriquées en France. Les tote bags, ils sont fabriqués dans du coton organique, fabriqué dans les Vosges. Donc, on va assez loin dans...
On sent ta passion et d'aller le sens du détail que tu as énoncé au début du podcast.
On essaie d'aller jusqu'au bout.
Tu le retrouves dans la cohérence de cette marque. Toute fin du podcast, alors c'est une question que je pose toujours aux invités, c'est les goûts en matière de création. Donc, ça peut être ciné, série, BD, musique. Voilà, des créations qui t'ont marqué, soit de manière récente, soit de tout temps.
Les goûts,
ça peut être un livre, ça peut être une musique, ça peut être un film, une série.
Moi, j'adore voyager. C'est ce qui me fait du bien. C'est ce qui me ressource.
D'accord. Donc, ou alors, quelles seraient tes top destinations?
Alors, je suis plus une fille du sud. Hein. Je suis corse de Minorque, Ibiza, la Corse.
Méditerranée, quoi.
C'est magnifique.
Sardaigne un peu ou pas?
Sardaigne, ouais, j'y suis allée, mais je connais moins bien. Donc moi, vraiment ce qui m'inspire, c'est les voyages. J'adore cuisiner. Mm-hmm. C'est cuisiner les bons produits.
Quel plat tu cuisines?
Ah, je cuisine de tout. Je fais aussi bien mamie gâteau que des plats.
Pour l'apnée, non? Quand le poulpe.
J'adore cuisiner. Moi, ça me détend de cuisiner.
D'accord. Un anti-stress.
Voilà, c'est un anti-stress total. Les goûts musicaux, c'est très varié.
Eric Serra, la playlist du Grand Bleu. Forcément, pense à Eric
Serra. C'est très varié, non? Les bouquins, les. Je suis marquée par les images, les images, le visuel est important pour moi, le visuel. Et puis après, je trouve que ce qui est important, c'est de profiter de l'instant présent.
Carpe tu vois, diem.
C'est ouais, d'essayer le plus possible de profiter de l'instant présent. Et particulièrement, je trouve que quand tu es entrepreneur, c'est quand même assez stressant. Ce n'est pas un truc que je recommande à tout le monde.
Copain des mortels, ouais. J'allais dire. Il faut être bien soutenu par son entourage, on va dire.
Ouais, bien soutenu par son entourage et avoir une certaine
ténacité,
hein, peut-être une petite part de folie aussi. Mais j'ai vraiment appris à profiter du petit moment, tu sais, ces petits instants où t'es envahi par la joie et le bonheur qui tiennent à rien. Tu vois, ce week-end, je suis allée à Séville. Je suis partie, il pleuvait, il faisait hyper froid. Je suis arrivée à Séville, je suis arrivée hyper tard. J'étais crevée parce que je m'étais levée à 5h du matin pour aller visiter un entrepôt logistique. Donc, j'étais claquée. Je suis arrivée à 11h30, il faisait 27 degrés. La chaleur en descendant de l'aéroport, j'avais la musique de Fleetwood Mac là, dans les oreilles. Bah, c'était un instant magique où je me sentais bien, tu vois. Et c'est savoir accueillir ces moments-là, parce qu'il y a aussi des moments où tu es au fond du trou... parce que tu ne sais pas comment tu vas réconcilier justement ta trésor où tu vois les gens de ton entourage qui se disent « mais pff, elle ne va jamais y arriver ». Puis bon, tu y arrives toujours, mais c'est savoir profiter de l'instant présent et savoir capturer ces petits moments où tu es heureux, puis se dire que y a des gens qui vivent des trucs plus difficiles que nous et que voilà.
Puis l'important, c'est d'y croire, tu l'as dit, qu'au moins le chemin est...
D'y croire et de se faire plaisir, je pense,
Oui, de prendre du plaisir en chemin. C'est pas la destination, parce que c'est vrai que ce qui est dur, c'est dans ce monde des réseaux sociaux, des levées de fonds, des machins qui sont en fait que des trucs d'apparence. C'est un chemin très personnel finalement, un entrepreneur.
J'aime bien ton expression, se faire plaisir en chemin. C'est exactement ça. C'est apprendre à se faire plaisir en chemin.
Et c'est vrai que chaque voie est différente. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est aussi tu as eu tout ce parcours en amont qui t'a effectivement construite. Et qu'on sent vraiment aujourd'hui. Merci beaucoup. Et la toute dernière question, évidemment, c'est le conseil que tu donnerais à un ou une jeune qui se lancerait dans l'entrepreneuriat. Ça fait peut-être un pont avec la question d'avant.
Bien réfléchir. Bien réfléchir.
Faire des économies.
Faire des économies. Tu sais, c'est marrant, j'y suis allée dans cet hôtel.
D'accord.
C'est à Palm Springs.
J'y suis
allée.
T'as bien visité alors.
Bien réfléchir. Tu sais, en fait, je trouve qu'autour du monde des startups, on fait beaucoup de... C'est très à la mode de monter sa startup. C'est très... on te fait beaucoup miroiter des choses. Les licornes, il y a peu d'élus, en fait, tu vois. Oui. Donc, c'est quand même bien réfléchir à ce qu'on veut faire. Peut-être se dire aussi, alors moi, c'est peut-être lié à mon parcours, mais finalement, moi, tout ce que j'ai fait avant, ça m'a vachement aidé aussi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est bien de vouloir se lancer de but en blanc, mais parfois, c'est bien aussi d'avoir une expérience avant qui te construit et qui t'assoit,
structure, qui te fait découvrir un secteur et une t'es de l'école de la passion et du secteur et de quand même une appétence. Bien sûr, tu partages ce point de vue.
Je trouve que c'est important. Et puis après, moi, je trouve que ce qui est important, c'est de suivre son cœur. C'est aussi de suivre son instinct, de suivre son cœur, de faire ce qu'on a envie de faire. Et de ne pas avoir de regrets. Je pense que c'est important de ne pas avoir de regrets. Tu vois, c'est exactement la démarche d'ailleurs que j'ai eue avec Apnée. J'espère que ça va cartonner grave et qu'on va réussir à emmener la marque là où j'ai envie de l'emmener. En mais je ne sais pas au final, tu vois, je ne sais pas de quoi est fait demain. Mais je pense que voilà, il faut suivre son instinct, être sûr de ne pas avoir de regrets. C'est ce que je me suis dit en me lançant. Je me suis dit, voilà, l'opportunité, elle passe, la marque, elle te prend aux tripes. N'aie pas de regrets et au pire, si ça marche pas, tu vois, je ferai autre chose. Donc je pense que c'est ça qui est important, c'est de pas avoir de regrets dans la vie. Il y a rien de pire que d'avoir des regrets. Donc je pense que c'est ça que je donnerais comme conseil, faire les choses avec passion, se dire que le chemin il va être difficile, donc que ça va demander des efforts, parce que tu sais, on est un peu, je trouve, dans un monde où, alors là je vais faire ma vieille, mais un peu dans un monde du moindre effort, tu vois, où les gens pensent qu'on réussit.
Ça, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur le côté marathon, sur le côté c'est quand même une route où il faut les reins solides, et c'est vrai que je pense que ce côté marathon est très intéressant, parce que c'est aujourd'hui, monter une boîte, c'est pas juste je monte, je fais une transaction, c'est quand même, comme tu l'as dit, de s'inscrire dans la durée, et ça prend du temps aussi d'installer une marque, de la développer, c'est très long, hein. Chanel, Gabriel, elle a mis du temps
d'émerger. Donc je pense que c'est ça, et puis voilà, et puis croire en ce que tu fais, être passionné, je pense que c'est ça qui est important quand même, d'être passionné, parce que ils mettent l'énergie des choses que tu as envie de réaliser. Rien ne se fait facilement.
Eh ben, merci beaucoup, Laetitia. C'est un grand plaisir, de t'accueillir pour ce podcast. Merci à toi.
Merci.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.